Voilà, bonjour à chacun. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux. On va poursuivre notre étude de ce livre, étude que nous avions commencée en octobre et novembre dernier. On avait fait une pause avec la période de l'Avent. Et ce début d'année aussi, on a eu Olivier qui était venu la semaine dernière. Et donc, on rattaque aujourd'hui. Peut-être pour se remettre un peu dans le bain, je vous rappelle que cette épître a été écrite à des chrétiens d'origine juive. Et ces chrétiens, en fait, sont persécutés à cause de leur foi. Ils sont rejetés dans leur famille, rejetés notamment dans la culture juive, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et cette persécution va à des coups, à de l'emprisonnement, même à leurs biens qui sont confisqués. Si on lit une des lettres de l'Apocalypse, on voit même que certains, en fait, ont du mal à garder leur travail ou à trouver du travail à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et face à cela, vous pouvez imaginer le stress que ça peut être pour des parents que de prendre soin de leurs enfants s'ils ne peuvent pas travailler, ramener de l'argent à la maison, n'est-ce pas? Et à cause de cela, il y a une forte tentation pour ces chrétiens d'origine juive de retourner au judaïsme, de retourner dans les pratiques du judaïsme avec le culte au temple, avec les sacrifices au temple et les différents rituels. Cette tentation est très forte au final d'être et de faire comme tout le monde pour éviter ces oppositions et ces persécutions. Et à cause de cela, à cause de cette grande tentation de conformisme, l'auteur écrit cette lettre parce qu'il voit la pente glissante que cela entraîne pour ces chrétiens lassés par l'opposition, par la persécution. D'une part, il y a ce risque de se perdre, il dit à ses lecteurs, pardon, de s'enfoncer dans une incrédulité et de ne pas s'attacher à Jésus-Christ. Il y a ce risque de dire que Jésus-Christ est inutile, qu'il est un imposteur qui ne sauve pas, et au final, on doit continuer par nos propres forces et faire nos propres œuvres, les rites du judaïsme, pour nous sauver nous-mêmes. Et dernier risque que cela entraîne, c'est que si on se détourne de Jésus-Christ pour retourner dans les rites du judaïsme, au final, nous ne portons plus et nous n'annonçons plus le message du salut de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que l'évangile n'est plus annoncé, ce qui veut dire qu'on empêche nos amis au final d'être sauvés en entendant l'évangile. Et à cause de cela, l'auteur écrit cette lettre pour les encourager à persévérer. Et on a vu dans nos 7 premiers chapitres que l'auteur n'arrête pas de leur montrer Jésus-Christ est l'accomplissement de la foi juive. Jésus-Christ est l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé par Dieu et par les prophètes dans l'Ancien Testament. Et il fait cela parce qu'il y a cette tentation de retourner dans le judaïsme. Et au final, ce que l'auteur est en train de nous faire, c'est qu'il n'est pas en train de dire, vous en faites pas, les persécutions vont s'arrêter. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est de braquer nos regards toujours plus, avec plus d'attention et de concentration sur qui est Jésus-Christ et sur ce qu'il a fait, afin de nous aider à traverser et à persévérer au sein même de la persécution. Il nous dépeint Jésus-Christ, l'envergure de son œuvre, pardon, la puissance de son action. Et c'est pour ça que plusieurs fois, on a utilisé ce verbe de savourer. Savourer Jésus-Christ, goûter à quel point il est bon, goûter à quel point son œuvre est grande, goûter à quel point son œuvre est toute suffisante et puissante pour nous encore aujourd'hui. Savourer Jésus-Christ, prenez le temps de réfléchir sur qui il est, de réfléchir sur ce qu'il a fait. Comprenez, étudions attentivement sa personne afin de persévérer aujourd'hui, de nous attacher à lui, de garder notre espérance qu'il s'attache à son appel et de transmettre aussi cette espérance autour de nous. Et c'est vrai que peu d'entre nous sont tentés de retourner dans le judaïsme. Ça existe, mais c'est assez peu notre cas actuellement. Mais nous avons aussi la tentation du conformisme, de vouloir être et faire comme tout le monde pour éviter la persécution. Alors, ce ne sera pas la persécution comme en Inde, par exemple, ou dans les pays où la charia est bien présente, où il peut y avoir pour nos frères et sœurs cette tentation de se conformer à l'islam ou de se conformer à l'hindouisme pour ne pas être persécuté. Et la question pour nous, au final, c'est quel est notre risque de conformisme ? Et nous avons des risques de conformisme, n'est-ce pas, de vouloir faire et être comme tout le monde pour ne pas être rejeté, pour ne pas être méprisé, pour ne pas être pris pour des moyenâgeux ou des fanatiques, n'est-ce pas, qui s'attachent encore à une éthique ou à une culture vieille. Mais c'est pour ça que ce texte est encore important pour nous de comprendre, de braquer nos regards sur Jésus-Christ, de savourer qui est Jésus-Christ afin de résister aussi à nos risques de conformisme. Alors, je n'ai pas trop donné d'exemples par rapport à ça, et la question sera, réfléchis-toi à ton risque de conformisme. Où c'est qu'il y a cette tentation pour toi de vouloir faire et être comme tout le monde ? Et la réponse de notre auteur, c'est, pour ne pas faire cela, braque tes regards sur Jésus-Christ. Savoure qui est Jésus-Christ, afin de demeurer attaché à lui, afin de toujours entretenir et affermir notre assurance et notre espérance, afin d'être toujours plus équipé et clair, pour avoir ce message clair et cette vie claire pour nos amis, pour nos enfants, pour nos parents, afin qu'eux aussi puissent connaître le salut, la libération, le pardon que Jésus-Christ donne. Alors aujourd'hui, on va poursuivre avec notre lecture. Je vais vous faire peur, mais je vais vous rassurer tout de suite. On va regarder un grand texte. Donc voilà, je vous ai dit que je vais vous faire peur. Mais on va faire moins de commentaires dessus. Pourquoi un si long texte ? C'est que j'avais du mal à couper le texte, pour être très honnête, et que je trouvais plus utile de garder la pensée globale de l'auteur plutôt que la morceler et au final perdre sa réflexion. Donc voilà, on va voir un long texte, mais je vous encourage à persévérer, à prendre le temps de vous concentrer. Je vais moins parler que d'habitude, on va plus prendre le temps d'écouter le texte, mais pour toujours bien saisir qui est Jésus-Christ. Et on va commencer avec le chapitre 8. On va lire les versets 1 et 2. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par les hommes. Et tournez votre page et on arrive au chapitre 10, à la fin de notre texte, les versets 11 et 12. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, Jésus-Christ, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et vous voyez que notre terre ici englobe son passage, commence et finit sa réflexion et son interpellation ici dans notre passage par cette grande affirmation « Christ s'est assis ». Alors peut-être parfois pour nous ça peut sembler banal cela, est-ce qu'il était fatigué, il avait besoin de s'asseoir ? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Mais il vient mettre cela en contraste. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, c'est ce qu'on a vu dans les 7 premiers chapitres, et notre souverain sacrificateur est quelque chose d'étonnant qui n'était jamais possible avant, c'est qu'il s'est assis. Avant, Le souverain sacrificateur dans le judaïsme était toujours au travail. Il était toujours en train d'offrir un sacrifice. Il ne pouvait jamais s'arrêter parce qu'il y avait toujours un autre sacrifice à offrir. Celui du matin, celui du soir, celui de la nouvelle lune. Et puis, tous ceux que les personnes apportaient à cause de leur péché. Donc, il ne pouvait jamais se reposer. Mais notre auteur nous dit, nous avons une grande différence. C'est que notre souverain sacrificateur s'est assis. Pourquoi ? Parce qu'il a offert un sacrifice suffisant, tout puissant pour l'éternité. Et c'est fini. Le péché est traité. Il s'est assis. Et voilà notre grande joie, notre grande assurance et notre grande espérance. Un seul sacrifice entièrement suffisant pour régler définitivement mon problème du péché et pour régler définitivement ton problème du péché. Et l'auteur est en train de nous dire en disant que Jésus-Christ s'est assis, il a dit « c'est fait ». C'est l'équivalent de ce que Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Il est en train de dire exactement la même chose ici, Christ s'est assis, c'est fini. Réjouissons-nous pour cela. On pourrait finir le message là et se réjouir de cela, mais l'auteur, entre ces deux mentions, nous explique davantage ce qu'il veut nous dire par cela. Et nous poursuivons notre lecture alors au chapitre 8, verset 3. Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était, c'est-à-dire si Jésus-Christ était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes. Ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Si en effet, la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisque eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, car je leur ferai grâce de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. L'auteur est en train de nous dire ici que l'ancienne alliance était marquée par l'incapacité. Il y avait l'incapacité d'être sauvé, d'être pardonné par l'ancienne alliance. Alors attention, ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas ou ne voulait pas pardonner, d'accord ? Il a donné des moyens, mais on va voir à quoi il servait exactement. Mais l'ancienne alliance avait l'incapacité de transformer notre cœur rebelle. Et l'auteur met cela en avant par le fait que Moïse n'a jamais construit le tabernacle définitif. C'était simplement fait selon le modèle. Autrement dit, le tabernacle qui a été construit dans le désert avec Moïse, ou même le temple que Salomon a construit plus tard, n'était qu'une représentation de la réalité. La réalité était auprès et est auprès de Dieu. Mais le tabernacle et le temple de Jérusalem, ou le temple du retour d'exil, ne sont que des représentations. Ils ne sont pas la réalité. Et ça, Salomon l'a bien saisi lui-même aussi quand il a construit le temple et qu'il a fait la prière de dédicace. Il a bien rappelé que, est-ce qu'une maison pourrait te contenir ? Et il a lui-même répondu, non, une maison ne peut pas te contenir. toi qui as créé l'univers. » Donc très clairement, Salomon a reconnu, cette maison n'est qu'une représentation, elle n'est pas la valeur ultime, la réalité par excellence, mais que la représentation de ce qui est à venir. Et cela est rajouté par cette grande citation, c'est la plus longue citation de l'Ancien Testament ici que nous avons, citation du prophète Jérémie dans un temps extrêmement de crise où l'exil approche. Et cette citation nous montre que l'Ancienne Alliance avait cette incapacité de nous pardonner et de transformer notre cœur. Regardez ce qu'il dit à nouveau au verset 8. « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle. » C'est ce passage de Jérémie, c'est le seul passage dans l'Ancien Testament où très clairement nous avons la notion de nouvelle alliance. Dieu avait prévu une nouvelle alliance. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas gardé mon alliance. Ils n'ont pas gardé mes lois. Ils n'ont pas gardé mes prescriptions. Ils n'ont pas gardé mes commandements. Ils ont été rebelles. Mais Dieu ne va pas laisser cette situation-là. Il va faire une nouvelle alliance, quelque chose de nouveau où il dit il va transformer nos cœurs. Il va faire en fait ce que Moïse avait demandé au peuple de faire, circoncisez vos cœurs. Ce n'est pas la circoncision du mal, de l'être humain mâle qui compte sur le sexe, sur son sexe, n'est-ce pas qui compte. Ça, c'était qu'une représentation. Ce qu'il faut, c'est circoncire votre cœur, infléchir votre cœur vers Dieu. Et Dieu, par ces passages, dit, moi, je vais faire ce que l'homme a été incapable de faire. Je vais circoncire le cœur, je vais mettre mes lois dans leur intelligence, je vais mettre mes prescriptions dans leur cœur, circoncision du cœur, je vais les transformer. Alors franchement, pourquoi retourner à ce qui était incapable ? Pourquoi retourner aux représentations quand la réalité et ce qui est capable est venu ? Pourquoi se conformer à l'ancien qui est incapable alors qu'on peut glorifier la solution de Dieu ? Et l'auteur continue, chapitre 9, verset 1. On va lire tout le passage, hein, mais juste quelques commentaires entre. Ce que vous devez faire, c'est vous écouter quand je lis, et quand je parle, c'est là où vous avez le droit de dormir, d'accord ? Mais c'est la Bible qu'il faut écouter. La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie, appelé le lieu saint. Et dans ce lieu saint se trouvaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, lorsqu'ils accomplissaient les cérémonies du culte. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles, relatives seulement à des aliments, des boissons, et diverses ablutions, et imposées jusqu'à un temps de réforme. L'auteur nous avance ici que le problème de l'Ancienne Alliance est qu'elle maintenait une distance. On ne pouvait pas entrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans la salle du trône, dans la présence même de Dieu. Même le souverain sacrificateur qui avait la possibilité devait le faire avec un sacrifice et il devait offrir de l'encens pour qu'il y ait un genre de nuage de fumée qui fasse un peu écran encore entre lui et Dieu. On ne peut pas être dans la présence du Dieu Saint. Dieu est venu dans le camp. Il habite au milieu et c'est extraordinaire comme avancée. Mais on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous montre vraiment la disposition ici qui nous est décrite avec voilà, ce voile qui maintient cette distance. Dieu est là, Mais parce que vous êtes pécheur et parce que Dieu est saint, vous ne pouvez pas être dans sa présence. Pourquoi cette distance demeure? Pourquoi on ne peut pas tous entrer dans la présence de Dieu? La réponse s'impose par elle-même, et c'est encore le défaut de l'Ancienne Alliance, c'est que l'Ancienne Alliance, avec tous ses sacrifices, nous maintient dans l'imperfection. Tous les sacrifices offerts chaque année, même chaque jour, je me suis amusé à faire un calcul de tout ce qui était offert, j'ai oublié de noter là, mais il y avait plus de 1000 sacrifices d'animaux par an au tabernacle. Et ça, c'est sans compter les sacrifices que moi je devais amener en plus, et donc que tout le peuple devait amener en plus à cause des péchés. Rien qu'en comptant les sacrifices du matin et du soir, de la nouvelle lune, de Pâques et des différentes fêtes, il y avait plus de 1000 sacrifices sanglants d'animaux par an. Et tous ces sacrifices faits année après année ne nous permettent pas d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que ces sacrifices sont incapables de nous purifier. Ces sacrifices sont incapables de nous rendre parfaits. Et donc ces sacrifices maintiennent cette distance entre Dieu et nous. Parce que le péché est traité par un animal ne peut pas payer à la place d'un homme. Et alors, à cause de cela, alors le péché ne reçoit pas sa juste sanction. Alors quoi? Que faire? Ou plutôt, qui pourrait le faire pour nous, n'est-ce pas? Et là, clairement, l'Ancienne Alliance travaille dans notre cœur. Elle nous frustre en disant « Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, c'est terrible. J'ai besoin d'autre chose. » Et c'est ce que nous apprennent ces sacrifices. Ils vont nous dire au final que j'ai besoin que Dieu intervienne lui-même. Et c'est ce que les prophètes vont rappeler. Et nous pouvons alors continuer la lecture de notre texte. Hébreux 9, verset 11. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des bienvenirs. » Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant ? Notre texte ici commence avec un grand mais. C'est un des grands mais qu'il faut apprendre notre Bible. Mais Christ. Il y avait incapacité, distance et imperfection, mais Christ est intervenu. Il est intervenu en notre faveur, et ce qu'il a fait, c'est qu'il n'est pas rentré dans les représentations, mais il est rentré dans la réalité. Il est rentré en tant que souverain sacrificateur pour offrir un autre sacrifice. Il n'est pas entré pour offrir les sacrifices du Yom Kippour, c'est-à-dire ses veaux et ses boucs pour le jour du grand pardon. C'est ça le Yom Kippour, n'est-ce pas ? Mais il est venu offrir pour offrir un autre Yom Kippour. Le Yom Kippour par excellence, le jour du grand pardon par excellence. Et ce jour du grand pardon par excellence, c'est celui où un homme paie à la place d'un autre. Ce jour où un homme prend la place d'un autre homme. Un homme meurt à cause du péché d'un autre homme. Et Jésus-Christ a fait cela pour nous. Et c'est pour ça qu'il nous dit au verset 14, « Combien plus le sang du Christ ?» Par le sang d'un homme, un homme parfait qui meurt à la place de moi et à la place de toi. Alors, le péché reçoit sa juste sanction. Enfin, c'est le péché d'un homme qui est traité. Et c'est un homme qui meurt pour cela. Le péché reçoit ton péché, mon péché reçoit sa juste sanction. Et l'auteur nous dit alors, à cause de cela, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Notre conscience est purifiée. Ça veut dire quoi, ça? Ça ne veut pas dire que on n'a plus souvenir, n'est-ce pas, de nos fautes. Ça ne veut pas dire qu'on les a oubliées, mais c'est que notre conscience peut être apaisée et rassurée. Christ a entièrement payé la faute pour moi, et ça c'est très important encore pour nous aujourd'hui. Quand je pêche, et quand tu pêches, très certainement la honte demeure, n'est-ce pas ? Tu as honte de ce que tu fais. Je pense que, comme moi, tu te souviens des péchés que tu as fait, peut-être l'année dernière, ou un jour, il y a un truc que tu as fait, tu t'es dit « mince ». Et ça reste gravé là, n'est-ce pas ? Il y a ce souvenir d'une faute qu'on a fait. Et ok, on sait qu'on est pardonné, mais purée, parfois on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ? Franchement, pourquoi j'ai agi comme ça ?» C'est-à-dire que, subjectivement, la honte peut demeurer. Subjectivement, je n'oublie pas ce qui s'est passé. Et parfois, c'est une bonne chose, parce que ça peut me garder de recommencer, n'est-ce pas ? Mais objectivement, dans la réalité, c'est payé. Subjectivement, je peux garder cette honte, mais objectivement, au niveau de Dieu, devant Dieu, par le sang versé, ma faute est totalement et entièrement payée. Il n'y a pas à revenir dessus. Dieu est totalement et complètement satisfait. Et c'est pour ça que ma conscience peut être purifiée. C'est-à-dire que je peux être libéré du poids de la faute. Je peux me souvenir, mais être libéré du poids, je n'ai rien à rajouter. Je n'ai pas à revenir dessus. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même ne revient pas dessus. Et si Dieu lui-même ne revient pas dessus, alors je n'ai pas à revenir dessus. Dieu ne va pas continuer à m'en vouloir ou en tenir compte. Christ est venu pour être l'ultime, le tout-puissant et tout-suffisant sacrifice. Et cela est vrai, même si Satan vient nous écraser par de la culpabilité, en nous rappelant le mal qu'on a fait et en nous faisant croire par des mensonges que c'est trop grave, que Dieu ne peut pas pardonner, parce que c'est encore et encore et encore et encore le même, n'est-ce pas ? Et à cause de cela, Satan nous murmure que Dieu en a marre de nous. Il ne veut plus de nous. Et il nous instille le doute. Et il nous instille encore le doute qu'on devrait faire des choses par nous-mêmes maintenant. Une bonne religiosité, franchement, si tu allais à l'église tous les dimanches, je vous encourage. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est pardonné, n'est-ce pas ? Si tu faisais telle ou telle chose pour Dieu, pour gagner Dieu, pour qu'il soit favorable, franchement, si tu faisais quelque chose pour que Dieu t'aime. Mais notre texte nous dit ici, Dieu t'aime, non pas à cause de ce que tu fais, mais parce que le sacrifice suffisant a été entièrement donné. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean nous dira, si nous confessons nos péchés, si uniquement et simplement nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, parce que Christ a tout payé pour moi et pour toi. Subjectivement, je me souviens, mais objectivement, c'est traité. Et je suis libéré. Et ça, c'est la grande nouvelle et la bonne nouvelle pour nous. C'est accompli. Comment ? Ah pardon, j'ai oublié ça. En Christ. C'est la perfection qui nous est accordée. Verset 15, nous continuons notre lecture. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Et de la même manière, il aspergea de sang le tabernacle et tous les objets du culte selon la loi. Presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, pour être honnête, on a une petite difficulté dans notre texte ici, on ne va pas la traiter, mais c'est versets 16 et 17, je vous laisse la traiter chez vous. Comment il faut vraiment comprendre le terme d'alliance? Est-ce que c'est comme dans ma version, c'est testament ou c'est alliance plutôt de type première alliance? Je vous laisse y réfléchir tranquillement ou je vous donnerai des indications si ça vous dit plus tard. Mais quoi qu'il en soit, l'auteur affirme ici la chose suivante, c'est que Christ, en s'offrant, est devenu notre médiateur. Il est notre représentant auprès de Dieu. Et pas seulement pour nous, après Christ, mais aussi notre médiateur pour ceux qui étaient avant Christ. Il nous rappelle cela avec la manière dont a été traitée la première alliance. Et il nous rappelle comment on traitait des alliances à l'époque. C'était pas pour nos âmes sensibles d'aujourd'hui, parce que quand on voulait traiter une alliance, quand un suzerain et un vassal traitaient une alliance, on prenait des animaux et on les coupait en deux. Et on voit ça notamment dans Genèse 15. Et on faisait un petit chemin très romantique avec des animaux coupés en deux, n'est-ce pas? Et on marchait au milieu de ce chemin. Et on disait, le suzerain et le vassal disaient, « Ok, voilà l'alliance que nous prenons aujourd'hui. » Et on invoquait des bénédictions, mais aussi des malédictions. Et la malédiction, c'était la suivante. « Si un de nous rompt notre alliance, voilà ce qui va lui arriver. » C'est assez marquant comme image, n'est-ce pas? Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la première alliance. Il y a eu un sacrifice. Autrement dit, si quelqu'un de nous, Dieu, mais lui ne va pas le faire, ou nous, hommes, rompt l'alliance, alors ce qui s'est passé avec ces sacrifices va se passer pour celui qui rompt l'alliance, c'est-à-dire la mort. Voilà la mort qui l'attend. C'est ce que l'auteur nous rappelle ici, verset 19. Moïse, après avoir annoncé pour tout le peuple, chaque commandement, prit le sang des veaux et des boucs. Et verset 20, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. C'est-à-dire que pour tous ceux qui rompaient donc cette alliance, c'est-à-dire pour tout le peuple, la mort était la conséquence. Mais l'auteur nous dit, toujours dans notre « mais Christ », voilà pourquoi, parce qu'il est ce sacrifice parfait, « mais Christ », voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire, il est notre médiateur à nous chrétiens, mais aussi pour ceux qui étaient dans la première alliance. C'est-à-dire que son sacrifice est suffisant et parfait et valable aussi rétroactivement pour ceux qui étaient sous la première alliance. Autrement dit, les sacrifices qui étaient offerts étaient en train de dire ou signifiaient que Dieu va traiter, on va couvrir par le sang des animaux le péché, le mal qui a été fait, mais on va attendre le paiement de la faute. Et ici, il nous dit, Christ est venu pour être le paiement. Il y avait la couverture par le sang des animaux. Ils étaient mis en attente, si on veut, en attente de paiement. Et maintenant, le paiement est venu pour nous, chrétiens, mais aussi pour ceux. Donc, réjouissons-nous et soyons dans la paix par rapport à ceux de la première alliance. Le paiement était là pour ceux qui avaient foi en Dieu. Et il nous dit encore plus que cela, c'est que grâce à cela, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, mais maintenant ici, ils reçoivent la promesse, verset 15, de l'héritage éternel. Quel héritage? C'est quoi cet héritage? C'est l'héritage que Dieu a promis à Abraham et à ses descendants. C'est-à-dire, on se souvient, c'est le pays de Canaan, le pays du repos. Mais où l'auteur, vous souvenez, les chapitres 3 et 4 de notre texte, a repris, c'est quoi le vrai repos? Le repos par excellence, le repos ultime que Dieu a promis. Ce n'était pas un lieu géographique, mais c'est le repos de la présence de Dieu, le repos de la réconciliation. Et je vous renvoie au chapitre 3 et 4 pour le revoir, mais c'est ce qui nous affirme encore dans la suite de notre texte au chapitre 11. Juste un petit texte. Oh. Ah mince, j'ai oublié de vous le mettre. Alors, vous allez me croire, mais regardez, sur chapitre 11, je lis à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à... Pardon, chapitre 11, verset 8. Hein. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et là, je passe au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont morts, qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voilà l'héritage éternel que Dieu avait promis. Non pas un bout de terrain, mais la présence de Dieu, le repos, la vie avec Dieu. Ce grand héritage qui nous est présenté dans l'Apocalypse également, où nous verrons Dieu face à face. Quand le peuple de Dieu entier, cette nouvelle Jérusalem, est auprès de Dieu et Dieu habite en son milieu. Et en cela, Christ est venu donc nous accorder la présence. Il y avait la distance, mais par son sacrifice, il est venu réconcilier, pardonner et accorde la présence. Et l'auteur va insister encore une fois dessus, sur son rôle de médiateur. Chapitre 9, verset 23. Il était donc nécessaire que, d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte, donc le tabernacle et le temple, et d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices, le sacrifice de Christ. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Et là, l'auteur nous fait toujours plus réfléchir sur cette question de présence. Comment Christ est notre médiateur ? Et il nous le dit ici en insistant au verset 24. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Autrement dit, Christ est assis dans les cieux, mais il est assis dans les cieux pour nous représenter. Christ est assis dans la présence en disant « Je suis là ». Au nom de Gary, je suis là, je représente Gary, ou je représente Jonathan, ou je représente Florence, c'est pour lui, c'est pour elle que je suis là. Et si je suis là, ça veut dire que Gary est là, ça veut dire que Jonathan est là, c'est-à-dire que Florence est là. Il est notre médiateur, et par lui, nous sommes dans la présence de Dieu. La distance a été abolie, et c'est la présence pleine et entière qui nous est accordée. Par la présence de Jésus-Christ, et nous le savons aussi, par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, la distance a été abolie. Et c'est pourquoi nous pouvons être rassurés. Et nous pouvons non seulement être rassurés pour aujourd'hui, mais pour toujours. Pourquoi ? Regardez l'insistance sur le côté unique, verset 25. Il n'est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois. Mais verset 26... il est paru à la fin des siècles, il est apparu une seule fois. Et encore verset 28. De même aussi le Christ qui s'est offert une seule fois. Autrement dit, ça veut dire que son sacrifice est suffisant et puissant pour notre péché d'aujourd'hui, notre péché de hier, mais aussi pour notre péché à venir. Il s'est offert une seule fois son sacrifice est tout-puissant et tout-suffisant. Et c'est pour ça que nous pouvons être rassurés, parce qu'il est tout-puissant pour tous nos péchés à venir, et malgré nos péchés à venir, c'est pas une excuse, c'est pas une raison, n'est-ce pas ? Mais c'est valable pour tous nos péchés à venir, et même en connaissant cela, il est assis aujourd'hui pour nous, pour nous représenter. Et à cause de cela, nous pouvons avoir une ferme assurance pour toute notre vie. Nous pouvons avancer dans la vie sans crainte que Dieu va nous rejeter à cause de ce que nous allons faire. Non, parce que son sacrifice est tout suffisant pour toujours. Et c'est déjà dans le ciel qu'il est assis pour nous. Nous pouvons avoir la sécurité pour toute notre vie. Et il le dit encore une fois d'une autre manière, verset 26. Car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché. Pour abolir le péché. Alors ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais pécher, n'est-ce pas? Et toute ta vie nous le montre. Hein, et toute ma vie vous le montre aussi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que je ne pêche plus, mais c'est qu'il n'y a plus de conséquences au péché. La malédiction de la distance, de la séparation n'aura plus lieu. Et c'est ce que Paul nous dit en Romains 8, n'est-ce pas? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La conséquence du péché est détruite. La mort est morte dans son sacrifice. La mort est morte dans son sacrifice. Et à cause de cela, nous avons une assurance aujourd'hui, mais pour tous les jours de notre vie et pour l'éternité. Et à cause de cela, l'auteur nous dit qu'il va revenir aussi pour ceux qui l'attendent. Donc attendons-le avec foi, attendons-le avec persévérance, attendons-le avec joie, parce qu'il va revenir plus pour traiter le péché, mais pour nous prendre dans sa présence par excellence. La présence est accordée et elle va être pleine et entière lors de son retour. On continue, chapitre 10 alors. La loi en effet possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché? Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens de le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Encore une fois, l'auteur reprend cette comparaison avec l'Ancien Testament, avec cette question qui pouvait légitimement se poser. Mais pourquoi Dieu a changé dans sa manière de faire? Pourquoi il avait ordonné avant les sacrifices et maintenant il nous accorde la réconciliation par Jésus-Christ? Et l'auteur répond, non, Dieu n'a jamais changé dans sa manière de faire. Mais les sacrifices n'ont jamais, jamais, jamais eu pour but de nous apporter le pardon et la réconciliation. Il est là, c'est là comme un intermédiaire. Mais toutes ces choses, temple, sacrificateur, sacrifice, étaient là pour nous montrer la sainteté de Dieu. Ils étaient là pour nous montrer la gravité et la présence du péché dans notre vie. Et ils étaient là pour nous orienter vers la solution. Mais ils n'étaient jamais la solution. Ils n'ont jamais eu pour but d'être la solution. Et là, l'auteur nous montre cela avec cette affirmation du psaume 40 qui a été écrit par David et qu'il met dans la bouche de Jésus. Avec cette affirmation, il dit « D'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice. » Puis il dit « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Et quelque part, il nous montre que David, déjà de son temps, avait compris que les sacrifices n'étaient pas la manière dont Dieu a voulu. Et David l'a dit en fait à plusieurs reprises. Vous pouvez lire le psaume 50, le psaume 32, si je me souviens bien également, qui va dans ce sens-là. Mais très certainement, David aussi avait ce rappel du rejet de Saül. Et où Samuel... Ah ben j'ai tout oublié, je suis désolé. Samuel avait dit la chose suivante au roi Saül quand il a désobéi. Il a dit la chose suivante, 1 Samuel chapitre 15, versets 22 et 23. « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix d'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion vaut bien le péché de divination, et la résistance vaut l'injustice et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Autrement dit, les sacrifices et les autres rites religieux, même s'ils sont donnés par Dieu, n'ont aucune valeur sans l'attitude du cœur. Ils ne sont que l'aboutissement de l'attitude du cœur, mais ils ne remplacent pas l'attitude du cœur. Et je vous encourage à lire le premier chapitre du prophète Ésaïe qui nous montre cela avec perte et fracas même, on pourrait dire, et de manière très très claire. Ce n'est que l'aboutissement, parce qu'ils ne peuvent pas changer le cœur humain. On a besoin d'autre chose, d'où cette parole qui est mise dans la parole du Christ. Alors je viens, parce que ça ne va pas, alors je viens. Donc déjà dans l'Ancienne Alliance, on savait que les sacrifices ne suffiraient pas, mais que Dieu avait une autre volonté. Je viens pour faire ta volonté. Autrement dit, on entend Dieu ici dire, je veux les êtres humains. Je veux la présence des êtres humains auprès de moi. Je te veux toi, qui que tu sois. Je te veux toi parce que je t'ai créé. C'est ma volonté que tu viennes à moi, que tu puisses être dans ma présence. Et pour cela, à cause de cette volonté, je vais donner le grand sacrifice, Jésus-Christ. Et donc on entend Jésus-Christ dire aussi, j'aime tellement mon Père, et on voit cela beaucoup dans l'évangile de Jean où il veut glorifier son Père. Je l'aime tellement, et j'aime tellement ce qu'il veut, et ce qu'il veut c'est la présence des humains, alors je vais me donner. Et face à l'incapacité, c'est pas simplement la capacité de la nouvelle alliance que nous avons, mais c'est la volonté de Dieu qui est exprimée. Il dit, je te veux, toi. C'est ma volonté que tu sois dans ma présence, c'est ma volonté que tu sois racheté, c'est ma volonté que tu sois réconcilié et pardonné. Et à cause de cela, nous avons fêté Noël, l'incarnation. Jésus-Christ vient pour se donner. Et à cause de cela, dans quelques temps, nous allons fêter Pâques. Christ se livre parce que c'est la volonté de Dieu pour que tu sois dans sa présence. Et alors notre auteur conclut. Face à cela, ce Méchrist qui a venu tout bouleverser, tout chambouler, face à l'incapacité de l'Ancienne Alliance pour tout accomplir par son œuvre parfaite pour nous rendre parfaits. Et il conclut en nous rappelant ce qu'il a affirmé au début. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également, car après avoir dit « Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur », je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et c'est cette grande nouvelle avec laquelle il a commencé. L'œuvre est complète. L'œuvre est entièrement accomplie pour nous, par Jésus-Christ, définitivement, suffisamment, pour l'éternité. Et cette question est là, alors, pour eux, les premiers lecteurs juifs, qui sont tentés de retourner au judaïsme. Ils disent, réfléchis bien, tu as vraiment envie de retourner à l'incapacité, à la distance et à l'imperfection? Est-ce vraiment ça que tu veux, de perdre ton assurance, de vouloir faire par toi-même ce que tu es incapable de faire? Est-ce que tu as complètement appris normalement que tu étais incapable de faire? Est-ce que tu es prêt à lâcher la perfection que Dieu veut t'accorder, la présence de Dieu et sa volonté pour t'avoir dans sa présence? Est-ce vraiment ça que tu veux en retournant dans le judaïsme, en te conformant pour éviter la persécution? Et il nous écrit, voilà ce que Christ a fait. À cause de cela, souffre. En fait, c'est pas seulement à cause de cela, mais voilà ce qui va t'équiper pour souffrir. Parce qu'à la fin de la souffrance, voilà ce qu'il y a. Alors que si tu retournes dans le judaïsme, à la fin de ta vie, il n'y a rien. Mon ami, il n'y a rien. Mais Christ te donne une assurance. Mais Christ te donne de la sécurité. Mais Christ te donne de l'espérance. Mais Christ te donne de la valeur. Est-ce que tu es prêt à renoncer à cela? Et cette question est là pour nous aujourd'hui, par rapport à nos conformismes. Conformisme du point de vue éthique, conformisme du point de vue de la manière de se comporter au travail, conformisme, rajoute celui que tu veux. Hier, je discutais avec une de mes sœurs qui a rencontré, alors attention, sa sœur est mariée avec quelqu'un de très connu dans le showbiz français, okay, et même un peu européen. Et elle a pu rencontrer la sœur de cette femme, ok. Et il y a eu un problème vraiment assez gênant. Et la sœur a dit à ma sœur, en fait, c'est sa manière d'agir. Elle croit que tout lui est dû. Et avec ma sœur, on peut se poser, est-ce qu'elle est vraiment chrétienne? Ou plutôt, on est arrivé à la conclusion, mais est-ce que c'est peut-être le péché de sa culture? Et dans sa culture du showbiz, on croit que tout nous est dû. Et au final, elle a simplement reproduit ce péché de penser que tout lui est dû et donc à faire un peu n'importe quoi. Et la question c'est quoi le péché de notre culture à nous? C'est quoi le péché de notre culture suisse? C'est quoi le péché de notre culture familiale? C'est quoi le péché de notre culture de notre entreprise? Auquel on aurait tendance à se conformer, à faire la même chose pour ne pas être rejeté ou pas connaître d'opposition, pour passer dans une petite vie tranquille. Et l'auteur nous dit, fais gaffe. N'abandonne pas Jésus-Christ. N'empêche pas les autres de connaître Jésus-Christ. Mais pour cela, sois prêt à souffrir. Mais si tu veux être prêt à souffrir, il faut que tu comprennes qui est Christ et ce qu'il a fait. Il a rompu la distance, il a amené la perfection. Et c'est par sa volonté à lui seul que tu peux être dans sa présence. Est-ce que tu es prêt à renoncer à cela? Et l'auteur nous dit non, ne le faites pas. Avec un avertissement. Je redis juste, et je vais arrêter, je vous promets. Verset 13, il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Avec cette question, de quel côté tu veux être? Est-ce que tu veux être son ennemi qui sera sous son marchepied? Et c'est ce qui va se passer quand il va revenir. Ou alors, tu veux l'attendre avec joie par rapport à tout ce qu'il a fait, même si ça veut dire connaître l'opposition et la persécution. Et c'est la question à laquelle je vous invite vraiment chacun d'entre nous à y réfléchir. Où est-ce que j'en suis par rapport à ce « mais Christ » Est-ce que j'attends le jugement? Est-ce que j'attends avec joie son retour, non en comptant sur moi, mais en comptant uniquement sur lui? Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à réfléchir aussi quand on va prendre ces éléments de la Sainte Cène, qui sont juste au final ce rappel juste, excusez-moi du juste, hein, qui sont au final ce rappel de ce mais Christ. Savourez Christ, savourez la perfection qu'il vous a accordée, savourez la distance qui a été rompue. Savourez le fait que vous êtes là par sa volonté. Et si tu tiens encore aujourd'hui, c'est uniquement par sa volonté, sa puissance, son œuvre, par le « mais Christ ». Et nous voulons, pendant ce temps de Sainte Cène, savourer et nous réjouir de ce « mais Christ » qui a tout accompli pour nous. Si ce n'est pas une réalité pour toi, laisse simplement passer ces éléments qui n'ont pas de rite magique, qui ne vont pas te sauver. Encore une fois, c'est seulement Christ qui sauve. C'est simplement une représentation de son sang qui a été versé et une représentation de son corps qui a été brisé, c'est-à-dire de la mort violente qu'il a acceptée dans sa volonté pour nous accorder sa présence et la perfection. Donc, si c'est quelque chose qui est une réalité pour toi, réjouis-toi, prends avec joie ce pain et ce jus de raisin et je vous invite pendant ce temps à prier, à exprimer votre reconnaissance à Dieu, peut-être aussi un temps de confession. Et si ce n'est pas une réalité pour toi, laisse simplement passer, mais réfléchis. Dans quelle position seras-tu quand il va revenir? Dans quelle position l'attends-tu? Ennemi ou joie du retour? Je vais juste prier, et si trois personnes veulent bien s'avancer pendant que je prie pour m'aider à distribuer ces éléments.